chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission Toulouse en direct. Nous souhaitons la bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent en ce libre journal des amitiés françaises. Je rappelle que Laurent est au standard. Il sera très heureux de prendre vos messages, vos questions que nous proposerons à notre invité. Vous pouvez le faire donc par téléphone au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous commençons, nous abordons donc cette deuxième partie et d'émission qui est consacrée à Hildegard de Bingen, qui était bien oubliée et redécouverte récemment, car elle s'impose comme une figure majeure de la spiritualité médiévale au XIIe siècle. Nous lui avions ainsi consacré une émission grâce au livre de Marianne Vanier, Hildegard de Bingen, une visionnaire et une femme d'action, qu'elle avait publiée aux éditions Entrelacs. Cette émission nous avait permis de découvrir une œuvre très vaste, protéiforme, centrée bien sûr autour des nombreuses visions d'Hildegard. Mais Hildegard, ce n'est pas que la spiritualité, ce n'est pas que ses visions. Elle aborde encore aussi dans ses écrits bien d'autres thèmes comme ceux des sciences naturelles, par exemple, à travers ce livre des subtilités des créatures divines. Elle parle des plantes, des pierres, des métaux, des arbres, des poissons, des animaux, etc. Et puis aussi la médecine, les causes et les remèdes. Et enfin, la musique, la symphonie et des harmonies célestes. Et ces livres illustrent bien ce génie protéiforme qui caractérise Hildegard de Bingen. Et pourtant, une partie importante de ses écrits reste encore dans l'ombre. Sa correspondance, une correspondance monumentale qui comprend 474 lettres qu'Hildegard a regroupées dans un ouvrage, le Liber Epistolarum. C'est un véritable projet théologique et littéraire. Un ouvrage érudit et passionnant vient de paraître et nous permet de découvrir l'originalité et l'importance de cette correspondance en la replaçant au cœur de l'œuvre et de la spiritualité d'Hildegard. Ce livre, c'est la correspondance d'Hildegard de Bingen. C'est publié aux éditions Beauchesne sous la direction de Marie-Anne Vanier. Cet ouvrage permet justement de situer à nouveau Hildegard par la portée de cette correspondance et de la situer en effet parmi les plus grandes autorités spirituelles ou politiques de son temps. C'est un ouvrage collectif de la collection Mystique chrétien d'Orient et d'Occident, publié sous la direction de Marie-Anne Vanier. Vous l'avez compris, chers auditeurs, nous avons le plaisir de le recevoir ce soir en direct pour évoquer, en effet, la correspondance donc d'Hildegard de Bingen telle que celle est faite dans ce livre publié aux éditions Beauchesne. Marie-Anne Vanier, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir pour évoquer la correspondance d'Hildegard de Bingen. Nous vous recevons avec un très grand plaisir. C'est une suite, en effet, à cette première émission consacrée à la vie d'Hildegard. Et vous allez nous expliquer que cette correspondance, effectivement, apporte de nombreux éclairages, à la fois sur la spiritualité, mais aussi sur la personnalité d'Hildegard de Bingen. Alors, je vous présente à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes docteur en philosophie, professeur à l'université de Lorraine. Vous êtes une spécialiste de Saint-Augustin. Nous avions effectivement fait une émission, même deux émissions, je crois, d'ailleurs, autour de l'ouvrage que vous aviez consacré à Saint-Augustin. Vous êtes spécialiste de Jean Cassien, de Maître Eckhart, des mystiques rhénans. Vous êtes aussi rédactrice en chef de la revue Connaissance des Pères de l'Église. Vous êtes une spécialiste, en effet, des Pères de l'Église. Et je l'ai dit, professeur de théologie à l'Université de Lorraine. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je vais juste citer effectivement ceux qui ont trait à Hildegarde de Bingen. Alors effectivement, je l'ai signalé, nous avions fait une émission sur Hildegarde de Bingen, une visionnaire et une femme d'action aux éditions Entrelac. Vous avez publié aussi aux éditions Albin Michel les visions d'Hildegarde de Bingen dans le livre des œuvres divines. C'est assez récent. Et puis alors, il y a quelques années, vous avez publié un livre qui m'a intrigué quand j'ai relu vos ouvrages, vos publications, afin de préparer cette émission. Et ça m'a intrigué. Alors je vous pose la question, ce dont il s'agit, n'est-ce pas? C'est l'expérience du Saint-Esprit que vous avez publié aux éditions du Cerf dans la collection Foi vivante. Qu'est-ce que c'est que cette expérience du Saint-Esprit dans cet ouvrage?
Alors, l'expérience du Saint-Esprit, Hildegarde de Bingen l'a faite, mais à l'époque, ce n'était pas ma préoccupation majeure parce que l'ouvrage m'avait été demandé par les éditions du CERF dans le cadre du millénaire de l'an 2000, hein, avec les trois années sur le Père, le Fils et l'Esprit-Saint et la dernière année sur la Trinité. Donc, j'ai fait toute une recherche sur l'Esprit-Saint et le but était de donner un panorama des textes sur l'Esprit-Saint. D'une certaine manière, j'avais été à bonne école parce que j'avais suivi les cours du Père Congar, qui a été celui qui a vraiment réintroduit la pneumatologie, la théologie de l'Esprit-Saint comme telle.
Alors ça nous ramène effectivement à Hildegarde de Bingen, naturellement, parce que nous allons voir avec vous, il aborde hein, ce thème de l'Esprit-Saint dans sa correspondance, mais notamment, ça m'a frappé dans sa correspondance avec Saint Bernard, c'est ça, hein, je ne me trompe pas en disant... c'est non, si c'est Saint Bernard, je crois.
Ça revient souvent de sa correspondance.
C'est ça, et oui. Et donc, c'est ce qu'elle précise dans ses lettres à ce grand saint, c'est que ce qui lui permet, en effet, parce qu'elle va vers lui, pour trouver en quelque sorte son appui, pour trouver un éclairage, et elle explique que c'est l'Esprit-Saint, justement, qui lui permet de discerner.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu une difficulté au départ parce que Hildegarde a eu des visions depuis l'âge de 4 ans jusqu'à la fin de sa vie et elle se sentait tout à fait bizarre. Hein. Et à un moment donné, à l'âge de 42 ans, une voix lui demande de mettre par écrit ses visions, ce qui lui demande un effort à les déchirer, et en même temps, elle va publier ses visions. Mais il faut qu'elle soit reconnue par l'Église. Et le pape Eugène III fait convoquer à Trèves un synode qui demande l'avis de Saint Bernard et Bernard de Clairvaux dit qu'il ne faut pas qu'une lampe aussi lumineuse soit cachée, soit mise sous le boisseau, qu'il faut au contraire qu'elle rayonne et à partir de là, Hildegarde va pouvoir publier son triptyque visionnaire.
Alors nous évoquerons bien sûr hein, au cours de cette conversation c'est l'échange épistolaire assez réduit tout de même et un peu discuté entre Bernard et Hildegarde. Alors je vous propose de commencer par le tout début. Pourquoi s'intéresser à la correspondance d'Hildegarde de Bingen?
C'est-à-dire qu'on redécouvre en France l'œuvre d'Hildegarde de Bingen. En Allemagne, elle a toujours été reconnue comme Heilige Hildegarde. Et connue, mais en France, elle ne l'était pas. Et c'est depuis une quarantaine d'années qu'on reconnaît son œuvre. Mais en fait, il faut qu'elle soit traduite en français. Or, elle ne l'est pas entièrement. Et ce qui est maintenant traduit en français, mis à part le volet médicinal, culinaire d'Hildegarde, c'est son triptyque visionnaire, c'est-à-dire le Scivias, connaît les voies du Seigneur, le maître ouvrage, le livre des mérites de la vie et le livre des œuvres divines. Et on parle de trois tempêtes visionnaires dont elle rend compte. Mais en fait, ces visions sont très intéressantes, apportent beaucoup sur un plan théologique, mais il y a une autre partie de son œuvre qu'on ignore, c'est sa correspondance, et sa correspondance qui est en quelque sorte la mise en œuvre, l'application pratique de ses visions. C'est-à-dire qu'il y a les visions qu'elle a, mais qui sont mises en œuvre pour telle ou telle personne, pour tel ou tel groupe, qui va lui écrire. Et il y a là toute une œuvre de discernement qui est réalisée, et c'est tout à fait passionnant de voir qu'il y a cette mise en œuvre. Simplement, en français, la correspondance, il y a une cinquantaine de lettres de traduites. On est loin d'avoir l'ensemble de sa correspondance en français, et c'est dommage.
Et vous expliquez que sa correspondance est 282 lettres au
Oui,
total.
alors ça commence par paire de lettres, comme on dit, parce que il y a une lettre de demande de la part d'un évêque, d'un abbé, d'une abbesse, d'une communauté monastique, et ensuite la réponse d'Hildegarde.
Bon, on est très impressionné à la fois par la variété de ses correspondants, mais aussi leur niveau politique et social. Parce que c'est peut-être l'occasion de nous rappeler le contexte historique et spirituel dans lequel a vécu Hildegarde au XIIe siècle, parce que ses correspondants, ce sont des papes, ce sont des rois, ce sont des princes, ce sont des pères abbés de monastères, ce sont des évêques. C'est très varié et très impressionnant.
Alors, ce qui est tout à fait génial, ce qui est une chance pour nous, c'est qu'on a justement redécouvert l'ordre qu'Hildegarde a mis dans sa correspondance. C'est-à-dire que depuis les années 1940 à peu près, il y a la redécouverte de ce qu'on appelle le Risen Codex, ou Codex géant, où Hildegarde a fait mettre ensemble toutes ses œuvres. Et il y a le Liber Scivias, etc., et le Liber Epistolarum, le livre des lettres. Et justement, elle classe ses lettres. On en a huit avec les papes, après on en a avec les archevêques, avec les évêques, etc., avec les souverains laïcs. Et elle-même donne le classement. Et avant, ce qu'il y a eu, c'est au XVIe siècle, au XVIIe siècle plutôt, parce que c'est les années 1580-1600, une publication de la correspondance d'Hildegarde, mais en prenant de ci, de là. Alors, il y a de fait plus que 282 lettres, mais elle les a classées, c'est-à-dire que ces lettres, pour elle, sont tout à fait fondamentales. Et on voit se dessiner toute une théologie, toute une mise en œuvre évangélique à travers sa correspondance. Et c'est vraiment très intéressant.
Et c'est pour ça que vous, dans l'introduction de votre livre, ce livre collectif que vous dirigez, nous allons bien sûr en parler, Marianne Vanier, la correspondance d'Hildegarde de Minigan aux éditions Bouchaine, vous dites que ces lettres, c'est une œuvre en soi.
Oui. Et elle a vraiment publié ce livre des lettres et on a la chance d'en disposer. Et même dans l'édition de la Patrologie Migne qui reprend l'œuvre d'Hildegarde, on ne l'a pas. On a une reprise justement de la première édition qui était un peu de bric et de broc. Et pour une fois, il y a un changement. Et en plus, on a une autre chance, je dirais, c'est qu'il y a eu un projet de numérisation à l'Université de Mayence. C'est-à-dire que maintenant, on a toute la correspondance d'Hildegarde en ligne. Alors, bien sûr, en latin, mais l'avantage, c'est que si on veut faire une recherche thématique, si on veut consulter ses lettres, hein, ben, on a la possibilité de le faire en ligne. Et ça, c'est un apport quand même très important.
Et vous expliquez aussi qu'elle donne un certain nombre d'informations sur le destinataire.
Oui, tout à fait.
Quelles sont ces informations? Que dit-elle?
Elle le situe un peu dans son contexte, dans la communauté monastique, bon, si c'est un évêque par rapport à l'évêché où il est, si c'est l'abbaye de Saint-Mathias, justement l'évolution qui est intervenue, etc.
Pouvez-vous nous rappeler le contexte historique et spirituel de l'époque d'Hildegarde, pour que chacun d'entre nous, nous puissions bien situer cette époque où elle a écrit donc, ses plus de 200 lettres à ses personnalités.
Oui, le contexte, c'est celui du XIIe siècle et c'est vraiment une époque de renaissance. On dit que c'est le printemps du Moyen Âge et c'est un renouveau dans tous les domaines. Au XIIe siècle, c'est là qu'interviennent les ordres mendiants, les dominicains et les franciscains. C'est là qu'il y a la réforme de l'ordre bénédictin avec les cisterciens, Bernard de Clairvaux en particulier, et elle-même qui a été offerte comme oblate au monastère du Disibodenberg alors qu'elle était toute jeune, mais va vivre aussi ce renouveau spirituel. Dans la mesure où ce monastère est ouvert et l'amène finalement à retourner aux sources comme telles, sources bibliques, sources patristiques. Et il y a aussi quelque chose d'important à l'époque, c'est que les monastères sont les relais de la culture, sont des lieux d'échange. Et Hildegarde a cette chance parce que, étant toute jeune, au monastère du Disibodenberg, ben elle va avoir toute une éducation qu'elle n'aurait jamais eue autrement, parce que les monastères à l'époque, c'était aussi des écoles pour les enfants, parce qu'il n'y avait pas d'école sinon.
Vous écrivez dans l'introduction que la correspondance d'Hildegarde de Bingen nous apporte beaucoup de révélations, un certain nombre de secrets. Alors, quelles sont ces révélations, quels sont ces secrets que sa correspondance nous révèle? Et puis, j'aimerais aussi vous demander ce que ça nous révèle de sa personnalité, de sa spiritualité. D'une manière générale, on va rentrer bien sûr dans le détail tel que vous faites dans votre
Oui, non,
livre.
mais
Hein. Hein, on va parler de sa correspondance avec les papes, avec les abbés, les évêques, etc.
c'est
Hein. Mais d'une manière générale, quel secret cette correspondance nous révèle? Qu'est-ce que ça nous dit d'Hildegarde de Bingen?
c'est quelqu'un qui était à la fois très humble et qui avait beaucoup de discernement. Elle était capable de comprendre en profondeur les personnes et bon, elle faisait pas de psychologie ou de psychanalyse, mais il y avait vraiment une compréhension en profondeur des personnes et du projet de Dieu sur les personnes. Par exemple, une abbesse Azeka qui lui dit. Ah, mais moi, je voudrais quitter mon rôle d'abbesse et être ermite. Et Hildegarde lui dit, non, non, si t'es ermite, ça sera bien pire que si t'es abbesse, parce que, en fait, Le problème ne vient pas de sa tâche, mais de son manque de détermination, d'équilibre, et qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même pour s'unifier en profondeur et à partir de là, assumer tranquillement sa tâche d'abbesse. Donc, c'est un regard extérieur, mais un regard lucide. Et parfois, elle peut être très rude, par exemple, avec le chapitre ou le clergé de Cologne, elle est vraiment très rude.
Par exemple, pardonnez-moi, je vous interromps, mais vous utilisez le terme de rudesse archaïque concernant. Oh, et pouvez-vous illustrer cela avec ce
Bah,
clergé donc de Pologne?
oui, c'est-à-dire qu'elle va directement au but, sans nuance. C'est pas quelqu'un qui va donner dans la rhétorique ou dans tout un travail poétique. Non, elle va directement au but. Et c'est quand même là quelque chose qui est à la fois très intéressant, mais en même temps un peu difficile. Je pense que ses interlocuteurs n'étaient peut-être pas toujours contents.
Oui. Quand vous dites quel conseil, par exemple, à cette mère abbesse tentée par le désert, un peu pour échapper au rôle difficile, hein, ça revient assez régulièrement sur la difficulté à être père abbé ou mère abbesse, hein, dans sa correspondance. Donc c'est très difficile. Je ne sais pas si au XXIe siècle c'est toujours aussi difficile. Mais en tout cas, au XIIe siècle, c'est difficile. Alors, c'est une question que j'aimerais vous poser, parce que vous avez certainement de nombreux échanges avec des responsables de couvents, de monastères, etc. Est-ce que il est plus facile au XXIe siècle d'être père abbé ou mère abbesse qu'au siècle d'Hildegarde, au XIIe siècle? Je ne sais pas si c'est un sujet que vous abordez avec vos interlocuteurs.
Oui, c'est une question autre, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus facile parce que les personnes sont toujours les mêmes, mais parfois, quand on lit Hildegarde, on a l'impression de retrouver des problèmes actuels.
Qu'est-ce qui fait
C'est.
l'intérêt, effectivement, de cette
Oui, tout
lecture?
à fait.
C'est toujours très, très actuel. J'aimerais vous poser la question parce que ce sont des sujets qui reviennent régulièrement. On n'est pas bien sûr dans la psychanalyse, mais néanmoins, lorsque cette mère abbesse dit à Hildegarde, je suis tenté par le désert, abandonner ma responsabilité de mère abbesse pour devenir ermite, et qu'elle lui répond qu'il faut qu'elle travaille sur elle pour s'équilibrer en quelque sorte. Mais concrètement, est-ce qu'elle aborde le mode d'emploi au-delà de la recommandation générale? Est-ce qu'elle donne un mode d'emploi?
Pas
Est-ce que ça
vraiment,
apparaît dans
c'est-à-dire.
ses correspondances?
Bon,
Non?
là, la correspondance est assez rapide. Bah, si, elle lui dit de s'unifier, de prier, elle lui donne un mode d'emploi quand même, mais il faut voir aussi qu'elle la connaissait et qu'elle a séjourné dans son monastère. Donc, je suppose qu'il y a eu différents échanges. Et la lettre, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, mais il y a eu une discussion en profondeur qui est intervenue. N'y a pas simplement la lettre qui est
Oui, derrière, il y
tombée.
a toutes les rencontres et les discussions qui. C'est ce que vous nous. En effet, ce qui vous expliquait. Quel est
Elle est
le.
très humaine. Elle est très humaine et c'est quelqu'un qui comprend les personnes en profondeur. C'est ça qui est intéressant.
Ce trait de personnalité, cette compréhension des autres en profondeur que vous précisez, que révèle cette correspondance, c'est un trait de caractère inné d'Hildegarde, ou c'est quelque chose qu'elle a cultivé, qu'elle a acquis par la prière, justement par l'Esprit Saint? On parlait de l'Esprit Saint au début de cet entretien. C'est une qualité qu'elle accorde d'ailleurs à Saint Bernard quand elle le consulte. Bah, Saint Bernard, il peut donner des conseils parce qu'il comprend les gens, parce qu'il est éclairé par l'Esprit Saint.
Oui. Alors, elle, justement, vit toujours à l'ombre de la lumière divine, c'est-à-dire elle vit dans l'esprit presque de manière constante. Alors, sinon, elle a fait aussi un travail sur elle-même. Par exemple, dans le livre Des mérites de la vie, elle aborde le combat spirituel, elle explique, donc on voit qu'il y a eu tout un travail qu'elle a réalisé sur elle-même, mais en même temps, il y a quelque chose qui lui est donné comme tel. Et le pape Eugène III, dans la première lettre justement du Liber Epistolarum, dit qu'il y a un peu trois caractéristiques d'Hildegarde. C'est qu'elle a le don de voir et de voir qui est la personne, ce dont elle a besoin avec beaucoup de délicatesse, de miséricorde. Elle a le don de comprendre et celui de proclamer. Videre, intelligere, proferre. Et c'est vraiment intéressant parce que ce sont les critères que saint Thomas d'Aquin reprendra ensuite. Donc il y a ce don de percevoir les choses, de comprendre de l'intérieur avec le cœur hein, et de proclamer. Bon, là, elle proclame un certain nombre de choses dans ses livres, dans ses homélies, mais dans ses lettres, c'est plus expliqué à chacun. Hein, c'est autre chose. C'est la transmission, en
Je
fait.
souhaitais vous poser la question si l'intérêt littéraire de ces lettres, le style, est-ce que c'est lisible au XXIe siècle? Je lis d'ailleurs le message d'un auditeur hein, qui amène cette question. Hildegarde écrivait-elle uniquement en latin ou bien écrivait-elle en vieil allemand? A-t-on des lettres autographes d'Hildegarde? Quand on cherche la foi, quelle lecture conseilleriez-vous? Ou bien le personnage est-il trop éloigné de nous?
Alors, il y a plusieurs
Oui,
éléments.
plusieurs questions, parfaitement.
Oui, alors ces lettres sont tout à fait lisibles. Il y a justement dans l'ouvrage Mechthild Dreyer et Harald Schoetzer qui disent qu'elle reprend les canons de l'époque, l'art d'écrire de l'époque. Donc ça, il y a un travail littéraire, même si elle est assez directe, comme on l'a vu. Autre chose, c'est que souvent elle parle par anecdote, un peu comme le Christ dans l'Évangile a recours à des paraboles, pour faire comprendre à ses interlocuteurs ce qu'il en est. Elle a recours à des paraboles, à des images, et c'est tout à fait intéressant. Alors ensuite, pour ce qui est de la langue, les lettres dont on dispose sont en latin. Mais y a-t-il eu des lettres en allemand, en moyenno-allemand? Bon, certainement. Et je pense que elle écrivait à ses correspondants, sauf aux papes, aux archevêques, mais aux autres, elle devait écrire en allemand. Simplement, ensuite, elle a donné une version latine pour que ça passe à la postérité.
Mais a-t-on des lettres autographes d'Hildegarde où c'était dicté?
Ben, on ne sait pas parce que
Oui.
elle dit, c'est un peu compliqué, parce que elle dit qu'elle est inculte et elle l'est pas du tout.
Elle est très humble, en fait, hein, et elle
Voilà.
ressort aussi des lettres, en effet.
Oui. Alors, il y a son secrétaire Vauban qui était sa plume, si on veut, mais en même temps, elle-même écrivait. Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit, qu'est-ce qu'elle a dicté, on ne sait pas. En tout cas, le Risen Codex a été réalisé de son vivant au Rupertsberg, donc dans son monastère. Est-ce que c'est elle qui en a écrit une partie ou pas? Ça, on ne sait pas exactement. On n'a pas les éléments. Mais en tout cas, elle a supervisé ou elle a dicté, elle a peut-être écrit certaines lettres, ça, on ne sait pas. Parce que il y a quand même une distance importante. Mais l'avantage, c'est qu'on a dans le Rhizome Codex vraiment l'œuvre d'Hildegarde. Alors, pas pour toutes les lettres, mais pour l'essentiel.
Et puis la question de notre auditeur, quand on cherche à la foi, quelle lecture conseilleriez-vous? D'Hildegarde, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Une lettre assez intéressante sur la Trinité, par exemple. Hein. Le mystère de Dieu, essayer de comprendre le mystère d'amour qu'est Dieu. Et elle-même a fait l'expérience de la vie trinitaire, a eu des visions trinitaires nombreuses. Et elle a rendu compte de cet amour infini du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et que le Fils et l'Esprit Saint nous transmettent. Et justement, à partir de là, elle explique à un évêque que son ministère est fondé dans la vie trinitaire. Hein. Donc, que c'est en tant que pasteur qu'il doit être prêtre, qu'il doit être père, hein, et que lui-même est aussi configuré au Christ, et que bah, toute la miséricorde, tout l'amour de l'Esprit-Saint, il doit le manifester à son peuple. Hein. Donc là, on a quelque chose de très intéressant comme tel. Hein. Et elle-même va au cœur de la foi, elle va vraiment au plus profond de la vie chrétienne comme telle. Hein. Alors là, c'est justement cette lettre à l'évêque de Bamberg qui est très intéressante comme telle. Hein. Et c'est vraiment son expérience qu'elle transmet. Et elle dit qu'il y a une mission créatrice des évêques à travers leur ministère sacramentel. Alors, ce qui est aussi bien, je dirais, c'est que elle associe des images de la nature à des images architecturales, en particulier la Jérusalem céleste, pour faire comprendre l'essentiel. Donc, on a aussi là, de manière simple, elle nous guide pour aller dans la profondeur même de Dieu, parce que ce qui est intéressant chez Hildegarde, c'est qu'elle a écrit le livre des œuvres divines, c'est-à-dire qu'elle part de l'action même de Dieu, et c'est cet agir divin qui se manifeste dans le monde, qui se manifeste à travers elle, qui se manifeste de différentes manières, dont elle est en quelque sorte le témoin.
Marianne Veilly, je vous propose que nous évoquions maintenant très directement votre livre, pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir, La correspondance d'Hildegarde de Bingen, que vous publiez aux éditions Beauchesne. C'est un ouvrage collectif hein, que vous avez donc dirigé. Pouvez-vous nous présenter ce livre?
Oui, alors il y a plusieurs parties. Au départ, il y a un article de référence d'une sœur d'Aibingen, Maura Satomine, qui présente justement le Liber Epistolarum et qui en donne les différentes composantes. Alors, c'est un article magistral d'une quarantaine de pages, mais qui propose vraiment un état de la question. Ensuite, il y a les deux articles qui se répondent de Mechthild Dreyer et de Harald Schützer, hein, qui font partie, comme Maura Satomine, de l'équipe de Mayence qui a édité de manière numérique justement le corpus des lettres d'Hildegarde. Et là, c'est la dimension philosophico-théologique qui tu dis Mechthild Dreyer, la responsable du projet, et tout l'art d'écrire qu'envisage Harald Schweitzer. Et en complément, il y a l'article de Jean Devrient qui situe la correspondance d'Hildegarde dans son époque. Alors ensuite, un article intéressant de Laurence Mellerin sur les rapports entre Saint-Bernard et Hildegarde pour voir ce qui est authentique et ce qui relève de la reconstruction. Donc, qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou pas? Saint-Bernard de Clairvaux est venu dans la vallée du Rhin. Est-ce qu'il a rencontré Hildegarde? On ne sait pas, on n'a aucun écho. On a une toute petite lettre de Bernard à Hildegarde. Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle n'est pas authentique? Elle n'est pas répertoriée dans sa correspondance. En même temps, Hildegarde lui écrit. Bon, on ne sait pas exactement. Alors là, c'est intéressant parce qu'elle fait le point. Et ensuite, on a différents volets de la correspondance d'Hildegarde. Alors, tout d'abord, Michael Envar, qui est spécialiste d'Hildegarde, qui voit sa correspondance avec l'abbaye bénédictine de Saint-Mathias à Trèves. Puis, Yannick Beblet, qui a même réalisé un jardin Hildegarde à Gnaud, et lui qui étudie la correspondance avec l'abbesse Azéka, que l'on a mentionné. Puis Philippe Molac qui voit une esquisse d'une esthétique trinitaire dans la lettre 14 d'Hildegarde. Jean-Claude Lagaric qui envisage le combat spirituel dans la lettre 15 au clergé de Cologne. Emmanuel Boller qui envisage la vision théologique et mystique de la musique d'Hildegarde à partir de la lettre 23 au prélat de Mayence. Bruno Ayet qui étudie le renouvellement du ministère épiscopal d'après la lettre à Évrard, archevêque de Salzbourg, et Éric Thiette de Clermont-Tonnerre qui envisage autre chose, c'est le rapport entre Hildegarde et Catherine de Sienne en fonction de la thématique mystique et prophétisme. Donc, on voit qu'il y a un panorama assez large. Bien sûr, toutes les lettres ne sont pas étudiées, mais tout de même, un certain nombre le sont.
Alors, Marianne Vanier, je vous propose justement que nous rentrions dans votre livre et que nous évoquons un certain nombre d'échanges épistolaires avec les papes, avec les évêques, avec les pères abbés ou les mères abbesses, et puis que nous terminions, dans la mesure du possible, bien sûr, sur cette lettre au prélat de Mayence, hein, où donc Hildegarde évoque sa vision théologique et mystique de la musique. Parce que c'est une grande musicienne, hein. Nous allons écouter en effet un certain nombre nous allons faire deux pauses musicales et nous écouterons des extraits de l'œuvre d'Hildegarde. Et donc ce sera intéressant d'écouter, effectivement, d'évoquer ces échanges particulièrement. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on progresse en évoquant des groupes d'interlocuteurs, puisque Hildegarde elle-même a classé ses lettres en fonction de ses interlocuteurs, que nous parcourions cela, que vous nous fassiez les commentaires que vous souhaitiez, avec peut-être un choix de lettres que vous nous lirez et que vous commenterez. Cela vous convient-il?
Tout à fait.
Eh bien, alors, je vous propose de commencer par. On est toujours, bien sûr, dans le Liber Epistolarum, hein, qui est ce recueil de lettres que Hildegarde a composé comme une œuvre en soi. Et je vous propose d'évoquer les lettres R1 et R8, hein, qui sont sa correspondance avec les papes.
Oui, alors tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est comment le pape Eugène III considérait Hildegarde et il l'appréciait beaucoup. Il y a plusieurs lettres, et là, ce ne sera pas une lettre d'Hildegarde, mais ce sera déjà Eugène III qui dit, nous étions...
Nous avons un petit problème technique, nous ne vous entendons plus. Donc nous allons faire la première pause musicale, écouter le message de la radio. Cette pause musicale, c'est donc Hildegard de Bingen, au Nobilissima Viriditas, par l'ensemble, Oriscus. Et nous espérons qu'après cette pause musicale et l'aide d'Hildegard, eh bien, la connexion soit rétablie avec Marianne Vanier.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Thank you.
Mes chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir en cette deuxième partie d'émission de recevoir Marianne Vallier, qui est théologienne, professeure d'université à l'université Lorraine. Nous la recevons pour la publication du livre « La correspondance d'Hildegarde-Bingen » aux éditions Beauchesne. Et dans notre première partie d'émission, eh bien, Marianne Vallier nous a expliqué le contexte historique spirituel hein, de l'écriture de cette correspondance, qui est une correspondance très importante, explique-t-elle, parce que c'est une œuvre en soi. Et Hildegarde, d'ailleurs, l'a constituée comme une œuvre en soi, en classant cette correspondance, en expliquant qui étaient ses interlocuteurs. Et donc, Marianne Vallier nous a expliqué toute l'importance de cette correspondance sur le plan spirituel et le plan historique aussi, et tout ce qu'elle nous révèle de la personnalité d'Hildegarde, à la fois une personnalité forte, mais doué d'empathie, de compréhension de ses interlocuteurs, hein, notamment lorsqu'elle s'adresse à des mères abbesses qui, face à la difficulté de leur tâche, sont tentées en quelque sorte de se retirer au désert. Eh bien non, on les exhorte à faire le point sur elles-mêmes pour continuer leur œuvre difficile de mère abbesse. Et puis, donc Marianne Vallier nous a présenté la manière dont cet ouvrage collectif a été constitué, et nous rentrons maintenant un peu dans le détail de cette correspondance et commençons par le sommet en quelque sorte, qui est la correspondance d'Hildegarde avec les papes et notamment le pape Eugène III. Nous en étions restés là avant cette pause musicale. Alors Marianne Vallier, vous êtes avec nous, vous êtes revenue. Et la liaison est bien restituée, on vous entend très bien. Cette pause musicale, c'est votre choix. Hildegarde, donc, de Bingen, qui est un chant d'Hildegarde, qui est joué par l'ensemble Oriscus. Et je voulais vous demander, effectivement, c'est O Nobilissima, le titre de cette pièce. Alors, peut-être un commentaire sur cette pièce musicale d'Hildegarde Bingen.
C'est pour montrer la grandeur de l'homme, sa noblesse et... Justement, on a aussi dans le livre des œuvres divines la deuxième vision où l'être humain est au centre de la création et c'est l'homme mesure de toutes choses à l'intérieur de la Trinité et avec une notion originale, la viriditas, la verdeur, bah nous on dirait la chlorophylle, c'est-à-dire la force de vie qui est dans chacun. Mmh. Et Hildegarde a eu l'intuition de cette grandeur de l'être humain et c'est aussi, aujourd'hui ça consonne avec ce que le pape Léon XIV dit dans sa dernière encyclique, d'une certaine manière, la grandeur de l'homme.
Mmh. Ah bah, un millénaire d'espace-temps entre les deux communications. Oui. Justement, puisque vous parlez du pape Léon XIV, là, il y a cet échange entre le pape Eugène III et Hildegarde, je vous propose que vous l'évoquiez. Notamment, le pape, écrivez-vous hein, dans ce chapitre, enfin, votre. Moraz Antoni évoque que dans cette lettre, le pape reconnaît Hildegarde un charisme prophétique qui s'accomplit dans l'humilité. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ?
Qu'il y a vraiment chez Hildegarde un peu cette dimension de prophète, un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament, et elle a ce don prophétique, mais ce n'est pas une source de glorification pour elle. Au contraire, c'est plutôt une difficulté parce que elle doit dire à temps et à contre-temps ce qu'il en est, et ce n'est pas toujours... très agréable pour elle. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a tout cet amour de Dieu qui est en elle et justement un accomplissement de la part d'Hildegarde. Et là, c'est quelque chose de remarquable. Et souvent, elle a été comparée au prophète de l'Ancien Testament.
Mmh. Alors, dans sa lettre de réponse à Eugène III, Hildegarde esquisse son profil spirituel. Que dit-elle sur son profil spirituel ?
Elle dit qu'elle est une pauvre créature, qu'elle est un peu, pour reprendre les mots de saint Éphrem, la harpe de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire que ben, elle n'est rien, mais que Dieu parle en elle. Et il y a cette humilité de la part d'Hildegarde, tout en sachant que c'est une femme d'action et quelqu'un qui agit beaucoup, qui a beaucoup de dynamisme.
Vous écrivez aussi qu'Hildegarde dépeint également le pape et lui rappelle sa responsabilité au sein de l'Église. Et elle parle de traite d'égal à égal.
Oui.
En la matière avec le pape. Elle est mère abbesse à ce moment-là.
Oui, oui.
Elle est déjà mère abbesse, oui.
Oui.
Qu'écrit-elle au pape ? Elle lui rappelle sa responsabilité au sein de l'Église, que dit-elle ?
Il y a beaucoup d'éléments en fonction de l'époque, mais c'est que lui-même est le pasteur par excellence et qu'il ne doit pas l'oublier comme tel. Et à chaque fois, elle écrit à ses correspondants en étant d'égal à égal. Mais c'est la force de l'esprit qui lui donne de le faire d'une certaine manière.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose, préciser quelque chose sur cet échange entre Hildegarde et les papes ou...
Non, parce que on a, c'est pas ce qui est le plus développé. Bon, Eugène III, qui était disciple de Saint Bernard, qui était un cistercien, donc il y a ça aussi. Il y a un statut un peu original de ce pape.
Et quels autres échanges souhaitez-vous évoquer pour les auditeurs de Radio Courtoisie, rentrer un peu dans le détail, parce que nous avons le choix. Votre livre évoque les échanges épistolaires avec les archevêques de Mayence, avec aussi d'autres évêques. Il y a aussi tout un chapitre consacré à l'art de la gouvernance, c'est-à-dire ce sont les lettres qui occupent une place d'ailleurs particulière dans le Liber Epistolarum. Ce sont celles qui sont destinées aux politiques, au roi Conrad III,
oui.
À l'empereur Frédéric Barberousse, ça n'est quand même pas rien, et au comte Philippe de Flandre. Donc, que souhaitez-vous évoquer, Marie-Anne Vanier, pour les auditeurs, parmi tous ces courriers
La lettre 30 à Adam, qui est abbé d'Ebra, en Franche-Comté, et puis aussi sa lettre au clergé de Cologne, éventuellement à l'évêque, l'archevêque Évrard de Salbourg aussi.
Oui, d'accord. Nous
si
vous
on
écoutons.
Commence,
oui.
Par la lettre 30 à Adam, abbé d'Ebra, sa question, c'est un peu comme Azeka, de savoir s'il va rester ou non abbé.
Lui aussi, c'est une question récurrente. Hein.
C'était un peu girovague à l'époque. Et il trouve que sa tâche n'est pas très bonne, etc. Et la réponse d'Hildegarde, c'est « La grâce de Dieu brille comme le soleil ». Et ainsi, on voit parfois ses dons, à savoir tantôt dans la sagesse, une autre fois dans la virilité, donc toujours cette force de vie, et une troisième fois dans l'humilité. Et toi, Père Abbé, écoute, comme l'étoile du matin précède l'aube dans la lumière, aide donc tous ces gens par le baiser de cet amour que Dieu t'a donné, et il te donnera la vie qu'il a envisagée au premier jour. Donc, ce à quoi elle l'invite, c'est à reconnaître la beauté de la création, reconnaître la grâce qu'il a reçue et la transmettre aux autres, et donc pas être replié sur lui-même, mais au contraire, s'ouvrir aux autres, voir ce qu'ils attendent, et à partir de là, tout ira bien. Donc, on voit qu'il y a ici une dimension assez pragmatique d'Hildegarde et puis le rappel des personnes à leurs responsabilités. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous avez des remarques.
Non, c'est effectivement le rappel aux responsabilités, ça revient régulièrement
oui.
dans ces échanges épistolaires, quel que soit le niveau hiérarchique d'ailleurs des personnes à qui elle s'adresse. Et notamment, elle définit dans ce chapitre consacré à l'art de la gouvernance, ce sont les lettres donc 49 à 54, qui sont adressées donc aux dirigeants politiques. Elle définit en quelque sorte ce que sont leurs responsabilités.
Oui. Oui, à l'empereur Barbarousse. Alors, on ne sait pas si elle était parente de Barbarousse ou pas. Elle lui propose de le rencontrer à Ingelheim. Donc, vraiment, de discuter avec lui. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, si on voit pour le clergé de Cologne, voilà ce qu'elle dit. Bon, je résume hein, parce que il y en a 6-7 pages. Hein.
Oui.
Par l'enseignement des Écritures, qui sont composées du feu du Saint-Esprit, vous devriez être les puissantes colonnes de l'Église, la soutenant comme les piliers qui soutiennent les limites de la terre. Mais vous êtes prostrés et ne soutenez pas l'Église. Mais vous vous enfuyez dans la grotte de votre plaisir, et à cause de la lassitude des richesses, de l'avarice et d'autres vanités, vous ne donnez pas à boire à vos ouailles et ne leur permettez pas de rechercher auprès de vous la doctrine, prétextant que nous ne pouvons pas tout faire. Vous devriez en effet être des colonnes de feu marchant devant eux et les guidant par vos paroles et vos bonnes œuvres. Mais vous vous abusez vous-même en disant « Nous ne pouvons venir à bout ni de ceci, ni de cela. Vous serez ou bien le jour, ou bien la nuit. Choisissez de quel côté vous voulez vous tenir. » Et elle termine en disant « Debout, réveillez-vous. » Alors, j'ai quand même... largement expurgé, parce qu'autrement, c'est lassant de lire l'ensemble de sa lettre. C'est bien de la lire, mais à haute voix, non. Hein. Mais en retenant l'essentiel, c'est quand même un petit peu une leçon qu'elle leur donne.
mais très concrètement, qu'est-ce qu'elle leur conseille ? Parce qu'elle dit, choisissez entre le jour et la nuit, réveillez-vous. Concrètement, que doivent-ils faire, ces abbés polonais ?
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire exactement ce qu'il doit faire, mais que tout de même, ils comprennent à partir de leur vie ce qu'il en est. Elle ne va pas dire exactement ce qu'il faut, mais que chacun comprenne ce qu'il doit faire comme tel. Hein.
Et en quelque sorte, elle rappelle les grandes lignes directrices. Après, c'est à eux sur le terrain de...
Oui, ça, à ce niveau-là, elle est toujours à faire appel à la responsabilité de chacun. C'est-à-dire à la liberté de chacun et elle souligne les problèmes, mais en même temps, elle demande à ce que chacun apporte une solution.
C'est un peu ce qu'elle demande aussi donc au souverain. Je reviens là sur ces lettres avec Conrad et Frédéric Barbarousse, l'empereur de cette époque, parce que dans cette partie consacrée aux échanges épistolaires donc avec ces souverains, eh bien, vous écrivez que le souverain doit, à l'instar d'un chevalier courageux, c'est ce qu'elle écrit Hildegarde, hein, combattre les abus, intervenir pour corriger et avant tout se gouverner lui-même. Qu'est-ce qu'elle entend ? Elle écrit là à Barbarousse, elle lui dit « il faut que vous gouverniez vous-même ». Qu'est-ce qu'elle entend par ça, se gouverner soi-même ? C'est se contrôler, c'est...
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui doit s'unifier et une unification qui suppose une maîtrise de soi. Et il n'est pas possible de gouverner les autres si on ne se gouverne pas soi-même. Il y a ça qui intervient. Et il y a de la part d'Hildegarde vraiment une dimension anthropologique très importante. Il y a une vision de l'être humain qui est très moderne. Et même aujourd'hui, je dirais la question de la paix extérieure, et elle le souligne dans un certain nombre de ses lettres, mais la paix passe aussi par chacun d'entre nous, par la pacification intérieure. Et ce qu'elle demande aussi au souverain, c'est de mettre en œuvre la justice. Et ça, c'est vraiment un souci de justice qui est très important chez Hildegarde. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir que ben, il faut qu'il y ait une juste répartition de tout et une justice distributive.
Vous écrivez dans ce chapitre, justement, Hildegarde invite l'empereur Barberousse à exercer la justice en fonction des situations, à éliminer les comportements fautifs et à promouvoir la vie. Qu'entend-elle par promouvoir la vie?
Ben, c'est-à-dire ne pas la détruire, ne pas faire la guerre nécessairement, mais essayer de voir comment chacun peut donner le maximum, peut développer ses charismes. Hein. Et là, il y a toute cette dimension de promotion de la vie qui est fondamentale. Hein.
Est-ce que les lettres d'Hildegarde pourraient faire l'objet d'un livre sur le commandement, sur le management? Parce que vous écrivez aussi, Hildegarde fournit des
Un petit
indications, un petit peu justement, voilà,
peu.
mais c'est cette phrase-là qui m'y fait penser. Hildegarde
Oui.
fournit des indications pratiques à un dirigeant appelé à exercer son pouvoir.
Oui.
Par exemple, hormis ce qu'on vient, outre ce que vient d'évoquer sur le fait de se dominer, de se gouverner soi-même.
Ne pas voir son intérêt, mais voir l'intérêt de tous. Donc, un décentrement fondamental, hein, parce que c'est le bien commun qui intervient et pas l'intérêt de X ou Y en premier.
Dans ces échanges épistolaires aussi, il y a des conseils qui sont particulièrement intéressants. C'est la correspondance avec les abbés, les lettres R5, R118, où elle recommande persévérance et vigilance. Je vous lis. Une préoccupation particulière qu'Hildegarde adresse avec insistance aux abbés est la vigilance, car elle identifie dans la lassitude spirituelle et l'instabilité les plus grands dangers pour la vie monastique.
Oui, la vigilance, c'est vraiment être attentif, être présent et rendre Dieu présent en même temps. C'est cette attitude du veilleur, justement, qu'elle avait déjà évoquée dans d'autres lettres. Hein. Et ça, c'est une attitude fondamentale pour l'abbé et ne pas être instable, au contraire creuser un sillon et avoir cette stabilité qui donne aussi la stabilité à la communauté.
Parce que vous écrivez un tel épuisement, Hildegarde écrit un tel épuisement intérieur menace surtout les abbés qui semblent s'user dans le soin de leur communauté. Mais ils sont bien là pour ça, les abbés. Ils sont bien là pour s'occuper de leur communauté.
Oui,
J'imagine.
mais en même temps, sous le regard de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui constamment vont gérer les problèmes de l'un ou de l'autre, mais s'en remettre à Dieu et le laisser travailler en chacun et voir comment il travaille en chacun, parce que c'est ça qui intervient, qu'il n'y ait pas de scission, qu'il n'y ait pas de dualisme entre la prière et le soin de la communauté, mais que ce soit un seul et même mouvement. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'épuisement, parce que c'est toute la question de l'agir divin, c'est l'unification de la vie qui intervient. Et ce n'est pas, ah oui, je suis épuisée à faire telle chose, mais au contraire, envisager comment tout se développe sous le regard de Dieu.
Marianne Veil, je vous propose que nous fassions une petite pause musicale et nous reprendrons bien sûr après notre conversation. Je vous avais choisi donc toujours d'Hildegard de Bingen ou Ignis Spiritus Paracliti par l'ensemble Sequentia.
C'est sur l'Esprit Saint, c'est l'hymne à l'Esprit Saint.
Et que dit-elle de particulier dans cet hymne?
Que c'est le feu divin, c'est vraiment ce feu d'amour qui se répand sur le monde. Et il y a la célébration de l'Esprit Saint, et c'est intéressant, parce que nous, on a redécouvert l'Esprit Saint à partir des années 1975, alors que elle est vraiment baignée en quelque sorte dans l'Esprit Saint et le célèbre.
Eh bien, nous écoutons ce O Ignis Spiritus Paracliti. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette conversation avec Marie-Anne Vanier autour de la publication de ce livre, La correspondance d'Hildegarde de Bingen, qu'elle publie aux éditions Beauchesne. Marie-Anne Vanier, quelle lettre souhaiteriez-vous évoquer pour la dizaine de minutes qui nous reste à passer en votre compagnie? Il y a dans votre livre, effectivement, des échanges importants avec l'abbaye bénédictine Saint-Mathias de Trèves, parce qu'elle les a bien fréquentées. Il y a de nombreuses lettres. Il y a aussi la lettre avec Bernard, toutes les questions, Saint-Bernard, toutes les questions qu'elle pose. Et puis, il y a aussi la lettre 23, où Hildegarde expose sa vision théologique et mystique de la musique. Et on sait, naturellement, nous venons d'écouter cette pause musicale, qu'Hildegarde est une très grande compositrice. Comment souhaitez-vous procéder, ou simplement vous avez fait, pour les éditeurs, un choix de lettres d'Hildegarde que vous pourriez commenter? Voilà, je vous...
Peut-être la lettre 23 sur la musique, parce que c'est une lettre intéressante dans la mesure où on est à la fin de la vie d'Hildegarde. Et il y a eu un événement malheureux, si je puis dire, c'est qu'elle a accepté que soit enterré dans le cimetière du monastère un jeune qui avait commis un crime dont il s'était repenti. Et à partir de là, le chapitre de Mayence décide que le monastère est frappé d'interdit et demande de déterrer ce jeune. Et Hildegarde dit « il n'en est pas question, j'ai eu une vision qui m'a dit qu'il ne fallait pas le déterrer. En plus, c'est un prêtre qui l'a amené, qui a demandé qu'il soit enterré dans ce cimetière et il est hors de question de changer les choses. » Et à partir de là, interdit, donc plus de célébration des sacrements et plus le droit de chanter l'office. Alors, le problème, c'est que pour Hildegarde, la musique est fondamentale. Étant donné qu'elle est musicienne dans l'âme, d'une certaine manière, ses visions sont accompagnées de musique. Et comme on l'a vu, elle sait très bien composer. Ce n'est pas du grégorien, c'est une musique originale qu'elle compose. Et c'est la privation des privations de ne plus pouvoir chanter ni entendre de musique. Donc là, une difficulté. Et dans la lettre 23, je vais en reprendre certains passages, elle dit « Apprenons que l'homme avait commencé à chanter sous l'inspiration de Dieu, et qu'il pouvait ainsi être amené à juste titre à se souvenir de la douceur des cantiques de la patrie céleste. Vous, les prélats, vous devez observer la plus grande vigilance avant que votre verdict ne ferme la bouche d'une quelconque des églises chantant des louanges pour Dieu, ou qu'il ne lui interdise de célébrer ou de recevoir les sacrements divins. Débattez et discutez auparavant très soigneusement entre vous sur les raisons qui vous poussent à agir ainsi. Vous devez être certain que c'est votre zèle pour la justice de Dieu qui vous anime, et non l'indignation, une impulsion injustifiée de votre âme ou un désir de vengeance. Veillez toujours à ce que vos jugements ne soient pas faussés par Satan qui arrache l'homme à l'harmonie céleste et aux délices du paradis. » Le cantique de louange, écho de l'harmonie céleste, s'est enraciné par l'Esprit-Saint dans l'Église. Le corps est le vêtement de l'âme et la voix de l'âme est vie. Il faut donc que le corps avec l'âme chante de vive voix les louanges de Dieu. C'est aussi pour cela que l'esprit prophétique nous ordonne par métaphore de louer Dieu sur les cymbales sonores, sur les cymbales retentissantes, ainsi que sur les autres instruments qu'ont fabriqués les hommes sages et avisés. Car tous les arts qui tendent à fabriquer des choses utiles et nécessaires à l'homme ont été imaginés par l'esprit que Dieu a envoyé. Donc là, elle appelle justement les chanoines de Mayence à réfléchir sur l'interdit qui frappe son monastère. Et elle voit que c'est beaucoup plus un désir de vengeance parce que il y a tout un rayonnement de son monastère, une certaine jalousie qu'elle inspire, hein, et une petite erreur, si je puis dire, devient l'objet d'un interdit très rude qui ne sera levé que quelques jours avant sa mort. Donc, c'est vraiment toute cette symphonie des harmonies célestes, comme elle dit, qui est mise en cause. Hein. Et là, il y a quelque chose de grave. Hein. Et on voit comment elle appelle le chapitre de Mayence à sa responsabilité comme telle. Et sa vision de la musique affleure dans la lettre. Hein. Et c'est un peu un écho aussi à l'Ordo Virtutum, ce drame liturgique qu'elle avait introduit dans le Scivias, dans son ouvrage Connais les voies du Seigneur. Donc on voit qu'il y a une unité aussi dans sa réflexion.
Vous écrivez d'ailleurs dans ce chapitre, hein, consacré à la lettre 23, toute l'importance en effet de la musique pour Hildegard de Bingen. Hein, la pratique de l'instrument est l'image analogique de l'action créatrice et salvifique de Dieu.
Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment, bah, de nouveau, tout cet agir divin,
Oui.
c'est participer à la création, bien sûr, à notre manière, c'est cette participation qui intervient par la musique, par les instruments, et c'est toute une harmonie qui s'en dégage. Et on parlait précédemment de l'unité de la personne, de l'harmonie de la personne. Et cette harmonie, on la trouve dans la musique. Et la musique contribue aussi à réaliser l'unité de chacun et cette harmonie à laquelle chacun est appelé. Donc là, elle en a une intuition très profonde. Parce que la musique est une réalité importante pour elle.
Profonde et très originale.
Oui.
Nous sommes en outre au XIIe siècle. Hein, vous écrivez dans ce chapitre, l'apprentissage de la musique est là pour nous aider à faire mémoire de l'acte créateur.
Oui.
C'est très impressionnant. Et encore, la musique fait partie intégrante de ces 26 visions. Comment la
Oui.
musique d'ailleurs fait-elle partie intégrante de ces 26 visions? C'est que ces
Et
visions
c'est
se
qu'elle a.
passent en musique aussi.
Oui,
Il y a une musique
oui, oui.
céleste qui accompagne ces visions.
Voilà. Oui.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Et oui, elle dit qu'elle entend justement le cœur des anges, qu'elle entend.
Elle entend cela, mais pardonnez-moi,
Oui.
Marine Vanier, puisqu'il nous reste seulement 2 minutes, mais elle entend cette musique céleste avec ses visions. Est-ce que, par exemple, les extraits musicaux que nous avons écoutés, les compositions qu'elle fait, sont inspirées justement de la musique de ses visions? Parce que ça voudrait dire que ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a composé, c'est une musique en quelque sorte divine.
Tout à fait. Et là, je ferai un parallèle avec le Liber Epistolarum, parce que le livre des lettres, c'est la mise en application de ses visions pour les personnes qui s'adressent à elle et qui lui demandent conseil. Et la musique qu'elle compose, c'est l'écho justement de cette musique qu'elle a entendue. Et c'est pas pour rien qu'elle dit que c'est la symphonie des harmonies célestes. Bon, c'est redondant si on veut en français, mais c'est cette symphonie qu'elle a entendue et qu'elle essaye elle-même de transmettre. Et c'est la raison pour laquelle elle ne reprend pas littéralement le grégorien. Bon, bien sûr, elle s'en inspire et elle reprend à la fois les bases musicales de son époque, les instruments après, mais il y a autre chose. Il y a vraiment cette dimension de création.
Il faut nous
Et c'est
précipiter,
là
alors.
dans les lettres. Pardon?
Excuse-moi, je vous ai interrompu. Je vous ai appris terminer, Marianne Vanier.
Oui. Oui, je dis aussi bien dans les lettres que dans la musique, c'est vraiment la mise en œuvre de ces visions auxquelles on a affaire.
Il est peut-être plus facile d'écouter sa musique que de lire
Ah ben oui.
ces textes. Il faut vraiment, c'est ce que nous retirons entre autres de cet entretien avec vous, Marianne Vanier, il faut nous précipiter et écouter l'œuvre musicale, en effet, d'Hildegarde de Bingen. En tout cas, dans cet épisode un peu dramatique où l'interdit est jeté sur son couvent, elle fait preuve de beaucoup de caractère, parce qu'elle dit non, elle s'oppose. Combien de temps a duré cet interdit?
3 ans.
Mais c'est énorme, c'est-à-dire que pendant 3 ans, ils n'ont pas pu célébrer d'office,
Ah non.
n'ont pas eu les sacrements, et elle tient bon.
Si, ils ont eu un peu les sacrements, mais les offices, c'était à voix basse ou bien chacune qui lisait l'office, elle se réunissait, mais sans avoir le droit de chanter.
Une femme spirituelle, un prophète, mais aussi une femme forte. C'est ce que vous nous présentez, Marianne Vanier, à travers la correspondance d'Hildegarde de Bingen que vous publiez aux éditions Beauchesne. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir en direct
Merci.
témoigner de cette correspondance. Merci à Stéphane, à la technique qui a réalisé cette émission. Merci à Laurent Sondard. Merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 5 juillet 2026, de 18h à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.